Nous voilà de retour en plateau, j'ai pas beaucoup de voix, je suis désolé. Avec nos invités de la Défense Collective et du Comité Vérité Justice, on va parler de répression et d'anti-répression. On a plein de choses à se dire, donc rebonjour à toutes.
Salut.
Et peut-être on commence par toi, Myriam, si tu veux nous présenter un peu le Comité Vérité Justice.
Voilà. Oui, ça peut. Et ben moi je m'appelle Myriam et pour me situer aussi un petit peu, moi je suis issue de quartier populaire et descendante d'immigrés, du coup un peu les questions policières et j'ai, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été confrontée à la police, que ce soit quand j'étais plus jeune, quand je vivais en Tunisie ou ici en France. Du coup je suis dans un quartier qui est juste à côté, en Palo. Et j'ai rejoint le comité Vérité et Justice 31 il y a un an, et ce comité il s'est monté en 2012, il me semble, suite à la mort d'Adama Traoré. Et du coup, en gros, la ligne un peu directrice, c'est justement d'essayer de faire un peu de lien entre quartier et centre-ville, pour dire grossièrement, mais surtout, du coup, d'être là en soutien pour les familles qui subissent les violences policières, qui ont perdu des proches ou autres, parce que du coup, dans les quartiers populaires également, parce que ce qu'on essaye de rappeler aussi, c'est que, admettons, quand une personne meurt, bah, c'est toute la famille qui est touchée et qui a un peu un truc de rendre visible ça et surtout apporter du soutien au maximum, que ce soit pécuniaire ou moral. Voilà, en gros.
Ok, merci. On en reparlera plus en détail par la suite. Du coup, on a deux personnes de la Défense Collective qui sont là.
C'est
quoi la Défense Collective ?
Ben, du coup, la Défense Collective, c'est une sorte de un collectif en fait qui est issu de la commission action des Gilets jaunes et qui du coup a commencé à s'organiser et se réunir pour faire face à la répression qui a été massive au début du mouvement des Gilets jaunes du coup dès mi-décembre 2018 et qui continue à se réunir toutes les semaines, où l'idée c'est à la fois de d'organiser des formations pour que les gens y soient au courant de comment ça se passe de la garde à vue, c'est quoi les droits, comment préparer un procès, comment se débrouiller quand on est en prison. Mais ça passe aussi par être présent dans la rue, en manif, partager des pratiques, partager un rapport, pas tant un rapport, mais plutôt une conception de genre comment on bouge ensemble, comment on se dissocie pas, comment on...
On se défend collectivement, finalement.
Tout à fait.
Non, mais j'avais fait un petit récap un peu de ce qu'on fait au sens large. Et c'est un peu ce que tu disais, quoi. C'est des conseils pratiques, que ce soit en manif, que ce soit en garde à vue, que ce soit au tribunal, que ce soit partout dans le mouvement où il y a une répression possible. Aussi, tout ce qui est collecte d'argent, on essaye pour faire du soutien, que ce soit matériel ou financier, aux personnes qui sont soit incarcérées, soit qui se prennent la répression judiciaire ou autre. Et après, on essaie de porter un peu un discours, j'ai l'impression, de défense collective, quoi. Donc de défendre tout le monde, de refuser les discours et les pratiques qui divisent les mouvements, qui divisent le mouvement, quoi. Que ce soit pareil dans la rue, en garde à vue, au tribunal, tout ça, quoi. Et dans le même style, du coup, le refus de se défendre au détriment des autres, pareil, que ce soit dans la rue, que ce soit en garde à vue, que ce soit au tribunal. Se défendre tous ensemble, tout le temps, et à tous les endroits où ça se joue. Voilà.
Et vous vous réunissez tous les lundis ?
Tout à fait. À 18h, à Mixart Miris, c'est 12 rue Ferdinand Lassalle. Et c'est des réunions qui sont ouvertes à tout le monde qui a envie de voir comment ça se passe, de participer, de filer des coups de main.
Et c'est juste avant la Comaction. Du coup, c'est possible de faire le grand marathon, réunion de l'ADC et Comaction. Gilets jaunes.
Ce qui est le cas du Comité Vérité Justice aussi ou pas ? Il y a des réunions ouvertes ou c'est
comment ? Non, il n'y a pas vraiment de réunions ouvertes. Nous, on s'organise un peu de manière intimiste, mais après, on essaye un peu de tabler sur des événements qui, eux, sont ouverts. Dans le cadre desquels on peut faire pas mal de liens, et là notamment il y en a un qui est en réflexion justement sur cette question des violences policières et comment les visibiliser. On s'est dit pourquoi pas retourner un peu dans le fief et profiter de cette visibilisation pour en parler avec les personnes concernées, notamment des quartiers populaires. Et je sais pas si vous avez vu, il y a pas longtemps par exemple, il y a un acteur du film Les Misérables de Ladjili qui a fait justement un atelier en Seine-Saint-Denis pour expliquer comment ça se passe un contrôle d'identité, qu'est-ce qu'on fait quand ça devient violent, etc. Et du coup voilà, nous c'est plus sur cette ligne là qu'on essaye d'aller.
Et bah ouais, du coup, la question qu'on se posait un peu pour lancer la discussion, c'est en fait qu'est-ce qu'on entend par répression, qu'est-ce que ça veut dire et dans quelles institutions ça se situe et ouais, ça se situe où en fait ? C'est quoi la répression ?
Vous avez peut-être... 2 minutes.
Ouais, peut-être c'était aussi de poser c'est quoi la répression pour vous, en rapport avec vos luttes, vos combats, voilà, j'imagine la répression a... On s'est dit en préparant cette émission que la répression avait des milliers de visages en fait. Mais que du coup, voilà, vous avez été plus peut-être sur certains aspects que sur d'autres, je sais pas.
Ben, j'ai l'impression qu'on s'est, du coup, on s'est un peu posé la question et on est un peu parti d'un truc, justement, essayer de voir large pour essayer d'en, pas d'englober toutes ces visions de la répression, mais je sais pas, moi j'ai l'impression, enfin, ce qu'on s'est un peu dit finalement, c'est que la répression elle se joue à plein d'endroits, pas que physiquement et matériellement finalement, et que, enfin, j'ai l'impression que ça va vers quelque chose de soit c'est utilisé pour faire peur, on utilise, enfin on réprime quelque chose ou quelqu'un pour faire peur aux autres, ou pour faire mal quand on est réprimé soi-même, que ce soit matériellement ou que ce soit par l'incarcération, etc. C'est plus des choses qui attaquent individuellement. Mais du coup, voilà, on est un peu, c'est un peu posé la question, et je dirais pas qu'on a une réponse, mais on se demandait si, ouais, si ça agit sur la peur ou si ça agit sur autre chose, ou est-ce que c'est la punition de 1 pour les 200, ou est-ce que tout ça. Du coup.
Puis j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc de. En fait, c'est à quoi elle sert cette peur et à quoi elle sert la répression. Et que dans moi, ce que j'entends par répression, c'est aussi. En fait, c'est tous les moyens qui sont mis en place pour faire en sorte que tu restes bien dans le cadre qui est prédéterminé et qui permet en fait qu'à un moment, certaines catégories de personnes dans la société en fait, continuent à maintenir leur pouvoir, quoi. Et du coup, que toi, tu restes bien dans ton petit cadre de personnes de telle classe, de telle couleur, de tel genre, etc. Et qui, du coup, bah, restent bien dominées et ne bougent pas, quoi. Et si tu dépasses du cadre, et bah, c'est là qu'en fait, la répression arrive et qu'elle peut arriver à la fois sur... en fait, on va te faire plus galérer pour... Enfin, ou en fait, on va t'enlever les choses que tu auras galéré à obtenir. Par exemple, un travail, si tu réponds mal à ton employeur, par exemple. Ou ton logement, ou tes aides sociales, ou aussi, genre... si toutes ces choses-là, en amont, elles n'ont pas permis que tu restes bien dans le cadre, et bah, à ce moment-là, là, on va utiliser tout ce qui est moyen policier et judiciaire, et donc aller plus dans ton corps et dans ta chair pour faire en sorte que tu... Voilà, que tu puisses plus sortir du cadre.
Même, enfin, au final, la répression, on se disait que c'est pas que policier et judiciaire, ça peut être aussi son groupe social, ce qu'on nous donne ou ce qu'on nous donne pas, justement, avec les aides sociales. En fait, c'est ça aussi, c'est une sorte de répression. Là. Si tu veux des aides sociales, il te faut en fait une adresse. Si tu veux un loyer, enfin, si tu veux un appartement, il te faut des garanties, il te faut une
des
preuve
papiers.
Que tu as déjà payé un loyer avant, il te faut un travail, un CDI, tu vois, si tu es intermittent, ces choses, si tu es précaire d'avant, enfin, toutes ces choses qui font qu'en fait, avant même d'arriver sur de la contestation réprimée, déjà on réprime un peu le truc de la marge et de la norme, quoi, c'est ça. C'est, si t'es pas dans la norme, plutôt on essaye de faire en sorte d'aller te chercher sur le côté et te ramener assez vite dans la norme, parce que voilà, un peu ce truc.
Ouais, et moi pour ajouter un petit peu, bon, je parle à titre personnel, mais pour moi, genre, la répression, ce serait comme... Comme il y a de la répression à partir du moment où il y a un dominant et un dominé, à partir du moment où il y a quelqu'un qui a, par des voies légales, je sais pas quoi, une légitimité de violence sur un autre, et quelle que soit cette violence, elle n'est pas forcément active. Et c'est ça aussi le truc dans ce que j'entends par répression, c'est qu'il y a un côté latent de ce qui se passe au quotidien tous les jours du fait d'être en position de dominer par rapport à des dominants, et ce qui se passe de manière active, c'est-à-dire ce qui va être plus visibilisé, ce qui va passer par l'action qu'on va voir, par exemple... un contrôle d'identité systématique au quartier ou un coup de matraque en pleine manif, c'est de la répression qui se joue sur deux temps différents, si on veut. Mais voilà, du coup, dans la répression, c'est un faible mot, je trouve, pour un peu définir en vrai, pour moi, la loi du plus fort étatique systématisée, un petit peu un truc comme ça.
Ouais, du coup, là, tu parles de violence d'État, et j'ai l'impression que souvent... quand on parle de répression, on parle de la répression, de la domination qu'exerce l'État, que ce soit au niveau des institutions de la police, de la justice, de la CAF. Mais au final, c'est pas que ça. Parce qu'en fait, c'est peut-être plus large, même si on prend rien que par rapport à la police ou à la violence physique, t'as un monopole de violence des flics, mais en fait c'était des compagnies privées qui défendent le même ordre, un quelconque ordre dominant, ce serait la même chose. Parce que j'ai l'impression que nous, on est vachement sur la
division
de l'État.
C'est déjà la même chose, c'est juste pour l'instant, enfin, il y a moins de vigiles privés et de compagnies de sécurité privées que de policiers, mais en fait concrètement, genre par exemple la RATP Sûreté, quand ça va devenir privatisé, en fait la RATP Sûreté, franchement, entre un BACU et la RATP Sûreté, ouais, moi je préfère voir un BACU, franchement, genre parce qu'ils sont, genre ils ont un espèce de level de violence pareil, de violence légitime, mais ils, enfin voilà, du coup je pense.
Oui, et après je rebondis sur ce que tu dis aussi sur ce truc de violence d'État. Je pense que l'État est éminemment violent à partir du moment où il se construit sur l'idée qu'il a le monopole de la violence légitime. Du coup, c'est un truc de l'État essentiellement et de la manière dont il est construit. Il est violent puisqu'il concrétise des rapports de domination, des rapports de force et qui vont venir s'exercer de manière très visible, par exemple, en instituant des institutions justement qui vont en avoir le monopole de manière active, comme la police, comme la gendarmerie, comme l'armée, etc. Et de manière plus... comme on dit, plus subsidiaire ou en tout cas plus masqué, qui va se passer du coup, bah, que ce soit par le fait de systématiser la présence de vigiles dans des magasins, que ce soit... Voilà.
Après, l'État et ses représentants, donc gouvernement, administration, flics, tout ça, déploient beaucoup d'énergie pour dire, pour cacher ce concept de violence légitime, alors qu'il est quand même institué, enfin, tout le monde est au courant, je veux dire, si on se penche un peu sur le sujet. Mais en fait, quand on écoute un peu les discours, en général, c'est les autres qui sont violents, quoi. Et c'est ce qui va justifier la répression, beaucoup. C'est d'aller dire, en fait, il y a de la violence et on peut pas vivre dans une société violente, on est dans une société démocratique, il faut discuter, machin, bidule. On est tous dans le même bateau, donc voilà. Et du coup, il y a un truc de... Alors que la violence, comme tu l'as dit, la violence légitime, elle est théorisée, instituée, c'est l'État qui a le monopole, effectivement. Il y a beaucoup d'énergie qui est dite pour dire que non, c'est pas de la violence. Je crois que c'est Macron qui disait « j'aime pas qu'on parle de violence policière parce que ça voudrait dire que les policiers sont violents » ou un truc comme ça, tu vois. T'es là, bah oui. Enfin, et du coup, ouais, il y a un retournement aussi de ces concepts de violence, de tout ça, qui viennent justifier... la répression, pas mal, quoi.
Après, j'ai l'impression que rien que dans les termes utilisés, ils disent, tu vois, c'est les forces de l'ordre. C'est aussi, enfin, c'est l'ordre qui utilise la force, tu vois. C'est quand même pas juste, ils disent pas le mot violence, tu vois. Mais à la fin, c'est quand même, c'est d'autres mots à utiliser parce que la violence, ça viendrait, c'est plutôt mal vu ou mal connoté. Mais
on dit gardien de la paix aussi.
Non, ouais, c'est vrai qu'on dit gardien de la paix. On dit pas beaucoup gardien de la paix. Même eux, ils disent pas gardien de la paix.
Ouais. Bah du coup, je sais pas si on se demandait aussi, mais on a déjà commencé à répondre un peu à cette question, où est-ce qu'elle se jouait, cette répression, et qui réprimait vraiment. On a déjà commencé à en parler, mais je sais pas si vous avez d'autres choses un peu à dire sur ce sujet-là.
Ok. Non, mais après, bah, ça rejoint, je pense que qui est réprimé, bah, on a commencé à y répondre de manière peut-être un peu large, mais... en fonction de ta classe, de ta couleur de peau, de ton genre. Après, sur le genre, peut-être qu'on lira un petit extrait du livre de Gwenola Ricordo qui s'appelle « Pour elles toutes » qui parle de femmes contre la prison, où en fait on voit que majoritairement c'est des personnes de genre masculin qui sont incarcérées. Mais du coup, il y a toute une, comment dire, toute une ambiguïté et tout le paradoxe en fait de cet enfermement des hommes, où en fait les femmes, elles ont déjà, quand elles sont incarcérées, elles ont une place qui est difficile parce qu'elles sont dans des quartiers spéciaux, tout ça, avec moins de droits au sein des prisons, même s'il y a tout le soutien en fait qu'elles peuvent apporter, parce que les femmes, ça va être aussi les femmes, les mères, les filles de ces hommes qui sont incarcérés. Et que voilà, bon, c'était un petit truc sur le genre, et peut-être que tout à l'heure on lira un petit extrait. Mais oui, en fait, j'ai l'impression qu'on y répond en disant que là où il y a domination, il y a répression. Et voilà.
Mais du coup, moi j'ai l'impression que genre, y a, là où il y a domination, de la même manière qu'en fait, genre, on peut ressentir les effets de la domination sur des trucs qui sont directement matériel, visible, mesurable, et qu'il y a d'autres aspects de la domination qui est beaucoup plus immatériel, beaucoup plus subtil, beaucoup plus caché, beaucoup plus de l'ordre de l'inconscient collectif, du ressenti, etc. Et du coup, bah, en fait, cette répression, elle va aussi être sur différents points, et à des endroits, elle va être hyper matérielle, et à d'autres endroits, en fait, ça va être vraiment un truc de s'empêcher de penser, en fait, de s'empêcher de penser ou d'imaginer des choses qu'on pourrait être capable de faire collectivement, de s'empêcher de s'imaginer être libre, de s'empêcher de s'imaginer détruire cette société. Enfin voilà, je pense que la répression, elle va aussi sur des trucs immatériels, et que pour le coup, c'est pas trop la police qui va faire ce genre de répression-là, mais ça va être plutôt l'école, l'hôpital psychiatrique...
Les médias, et on en parlera.
Les médias, tout à fait.
Oui. Ouais, c'est juste pour ajouter qu'il y a un truc aussi, moi j'ai l'impression, comme de personnalisation, en tout cas comme s'il y avait des personnes qui étaient touchées, des personnes qui ne l'étaient pas, et j'ai l'impression que c'est là tout ce qui est dégueulasse en vrai dans la répression. C'est comme là, par exemple, tu parles des prisons, une personne incarcérée, c'est toute une famille derrière qui elle aussi se retrouve d'une manière ou d'une autre... Pas matériellement enfermé entre quatre murs, mais en tout cas, moi, pour avoir vu, par exemple, ma mère se rendre à des parloirs, ou etc., en vrai, c'est toute la famille qui empathie, et la même peine qui est prise par la personne qui est incarcérée, et la même qui est prise pour les autres, pour les autres membres de la famille, pour tout le quartier, pour tous les amis, pour absolument tout le monde. De la même manière, une personne qui va être ciblée physiquement instaure dans l'inconscient collectif, ou je sais pas trop quoi, un truc de peur chez les autres, et du coup, la répression, elle est pas... Voilà, c'est juste un truc de j'ai l'impression que le discours, il tend à personnaliser, ça va être soit une personne, soit un groupe de personnes, etc., mais ça vise aussi à maintenir dans le calme tout le reste, alors qu'en vrai, même de manière pas ricochée, et pas ricochée beaucoup plus lointain, on est tous plus ou moins touchés.
Tout à fait. Ouais. Ça rejoint un peu une des questions qu'on se posait aussi en réunion, à la fois en préparant aussi cette discussion, c'était aussi genre, est-ce qu'en fait, genre, tout l'arsenal répressif, il joue uniquement dans le but de faire peur, en fait? Et que du coup, genre, si on enlève cette peur, est-ce que du coup la répression, elle existe toujours et elle a autant de pouvoir ou pas? Et voilà, enfin, on partait un peu sur des trucs un peu théoriques comme ça, et je pense que c'est assez chouette aussi de se poser la question soi-même, de, en fait, genre, c'est quoi qui fait peur et pourquoi on en a peur et comment on peut se détacher un peu de cette peur pour faire en sorte de pouvoir se permettre des choses.
Juste un truc que je comprends pas dans ce que tu dis, c'est si tu t'enlèves l'arsenal répressif, il y a plus de répression.
Non, c'est si tu enlèves la peur.
Ah oui, d'accord.
L'effet de l'arsenal répressif. Okay.
C'est qu'en fait, toute forme de répression, c'est à la fois une punition et une menace à chaque fois. Ça, et ça a ces deux fonctions-là.
J'ai l'impression que c'est une manière déguisée de réaffirmer systématiquement que l'État a le droit de vie et de mort sur toi. Et qu'il y a un truc assez fort de cet ordre-là. De toute manière, violence légitime, pour moi, ça veut dire j'ai le droit de te tuer. Et que c'est ça qui est entretenu par la répression et dans toutes ses formes.
Et du coup, on s'est demandé aussi si vous, dans vos expériences de lutte et dans vos expériences de vie aussi, est-ce que vous aviez vu des évolutions par rapport à cette répression de l'État dans les dernières années, à travers, à travers des décisions de gouvernement, des lois, des trucs comme ça, ou à travers d'autres choses?
On s'est posé cette question-là parce que on partait un petit peu, de se poser la question par rapport au discours qui existe dans les mouvements sociaux. On se dit tout le temps, ah oui, mais là, cette manif a été beaucoup plus violente, les armes sont de plus en plus violentes. Enfin, il y a vraiment toujours ce discours-là. Et la question, c'est, est-ce que c'est juste un effet de langage, en fait, qu'on utilise? Ou alors, quelles sont les réalités qu'il y a derrière? Et du coup, en préparant l'émission, on s'était posé la question... est-ce que, par exemple, 2015, l'instauration, ou plutôt la légalisation de l'état d'urgence, c'est une date marquante ou pas? Enfin, c'est une date marquante dans l'évolution de la répression, que ce soit au niveau police-justice en France, ou bien est-ce que c'est la simple légalisation de formes de répression qui existent en fait depuis très longtemps, avec des mécanismes qui, de toute façon, étaient déjà en place? Voilà, on s'est posé cette question-là. Et...
Moi, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi répressive qui se passe et qui est adoptée, c'est plutôt en fait un outil de l'État pour légitimer quelque chose qui était déjà là en fait dans les pratiques, ou pour réagir à un fait divers, pour faire en sorte que d'autres des pratiques de dominer ne soient pas généralisées, quoi. Et que du coup, et que c'est pour ça que, je suis assez d'accord sur ce truc de la répression, elle évolue, elle s'adapte en fait. Elle ne fait que changer de visage et changer d'outils pour faire en sorte de s'adapter à un mouvement et à des pratiques dans la rue, d'illégalisme, etc. Elle aussi s'adapte justement à cette répression. Et du coup, c'est un espèce de truc qui avance comme ça. Tout ça pour dire que du coup il n'y a pas vraiment de avant c'était mieux, ou j'ai pas l'impression qu'il y ait, pour moi en tout cas, qu'il y ait eu de moments vraiment marquants où on peut dire qu'il y a eu un avant et un après et que ça a changé énormément de choses ou quoi.
Ouais, moi c'est pareil, je dirais pas que ça évolue ou que ça s'empire ou qu'il y a des dates ou des espèces de trucs hyper marquants, mais moi je te rejoindrais sur ça s'adapte, quoi. C'est ça en fait, c'est... Il y a des endroits où ça va être, où ça va s'adapter aux pratiques des personnes qui contestent ou juste qui y vivent, et il y a des endroits où ça va s'adapter à la confrontation qu'il y a en face, la conflictualité, ouais. Et ce qu'on se disait un peu justement en préparant, qu'en fait, que ce soit dans les tribunaux ou dans la rue, les pratiques elles bougent énormément selon, rien que ce soit en termes judiciaires au tribunal, le fait de se faire juger à Toulouse, à Paris, à Lyon ou à Dijon, c'est pour des faits des fois qui sont les mêmes et tout. En fait, ça dépend énormément. Là, on est carrément sur du local, quoi. Et en fait, ça va, tout va dépendre de l'endroit où tu es et de ce qui s'est passé un peu avant et après, quoi. Et du coup, il y a vraiment une adaptation, je pense, juste à ce qui se passe en face. Alors, je sais pas qui s'adapte en premier. J'ai l'impression que des deux côtés, ça s'adapte en fait et ça avance. Mais je dirais pas que ça évolue ou que ça bouge, quoi, en fait.
Moi, je rejoins l'idée qu'effectivement, les lois elles viennent entériner des pratiques qui existent déjà. Par exemple, le fichage a commencé de manière pas du tout légale et a été légalisé par la suite. Et j'ai l'impression que c'est un peu un systématisme aussi. Et un écueil dans lequel on peut tomber, de croire que c'est la loi qui va précéder la pratique. C'est pas ça qui se passe dans la réalité. J'ai du mal à situer une date clé. C'est clair que le droit évolue et qu'il évolue en fonction des contextes et que les outils aussi évoluent, que ce soit les outils, par exemple le taser, la LBD, etc. Du coup, forcément, en face, on va réagir autrement, etc. Et de la même manière, je pourrais citer beaucoup de dates qui sont comme Adama Traoré, comme 98 Pipo à Toulouse, à chaque fois, c'est pas tant un avant et après, c'est un pendant systématique où on est tout le temps plongé et dans l'urgence et dans la latence de l'évolution des choses. Et de la même manière, c'est comme souvent, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu ce discours de les choses qui vont se passer en manifestation, par exemple, ont été testées d'abord dans les quartiers, que ce soit l'appareil judiciaire, que ce soit l'appareil répressif, etc. Et que j'ai l'impression que dans ce discours, il y a quand même un truc encore de mettre comme si les quartiers étaient des lieux d'entraînement de seconde zone pour ensuite, après, aller en manif, acter l'entraînement militaire qu'on s'est fait en quartier, etc. Et que j'ai l'impression plus qu'il y a un truc de la principale activité pour la police, pour moi, aujourd'hui, c'est réprimer en quartier. Et ensuite, évidemment, ça s'étale hors de là. Mais voilà, du coup, je ne saurais pas... Enfin, il n'y a pas de date clé, mais effectivement, ça évolue en fonction des contextes.
Tout à l'heure, on va peut-être écouter un petit extrait d'un plateau contre les violences policières qui a eu lieu à Canal Sud en décembre. Juste 98, Pipo, est-ce que tu veux dire quelques mots de quoi on parle?
Ouais, je peux situer. Du coup, en décembre 98, il y a un jeune à la Rainerie qui s'appelait Habib, dit Pipo, qui a été tué d'une balle dans le dos par la police après une fuite... à la Rainerie, et suite à ça, les policiers sont retournés tranquillement au commissariat sans même dire qu'ils avaient tiré sur une personne, et c'est une femme, je crois, qui promenait son chien qui a retrouvé le corps de Pipo. Et suite à ça, du coup, il y a eu des émeutes à la Rainerie, je crois 4 jours d'émeutes qui ont un peu embrasé le quartier et la ville, qui a été très très violemment réprimée. Et aujourd'hui, ça fait 21 ans qu'il est mort. Et suite à ça, il y a des personnes dans les quartiers qui se sont organisées, qui ont monté un collectif qui s'appelait le 9 bis, du nom du bâtiment en bas duquel ils traînaient, et qui ont voulu être complètement de manière autonome et qui ont essayé justement de visibiliser ces pratiques et la violence policière dans les quartiers, et qui très vite se sont retrouvés confrontés à toutes les questions qui animent les quartiers, que ce soit la pauvreté, le chômage, l'éducation, etc. Et voilà, ça, c'est un peu comme, enfin, pour moi, à titre personnel, un peu comme les grands frères et les grandes sœurs de lutte qui, aujourd'hui, font qu'il y a des Assa Traoré, des Amel Bentounsi, et ainsi de suite.
Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la pauvreté et au chômage. Enfin, je lisais un article un peu de, pour préparer l'émission. C'est vrai que c'est un peu... Bon, on n'est pas là pour parler statistiques, mais en l'occurrence, dans cet article, il parlait de ce qu'on appelle l'inflation du... Attends, c'est quoi ? Carcérale. C'est sur l'évolution du nombre d'incarcérations depuis les années 70, où en fait, proportionnellement à la population, il y a de plus en plus de personnes incarcérées. Et notamment, bon après du coup, ça serait intéressant de parler sur comment ça se matérialise et ça se vit vraiment au quotidien. Mais en fait, il y a un lien entre la courbe du chômage et la courbe de l'incarcération. Plus t'as de chômage, plus t'as d'incarcération. Donc ça montre aussi que, ben en fait, ouais, l'organisation économique dans laquelle on est et la manière dont elle est organisée, ben en fait, elle crée de la violence, que ce soit dans le cadre du travail, mais aussi dans le cadre du chômage, et qu'en fait, à certaines périodes, peut-être, où il y a... Enfin, j'ai l'impression que c'est cette pauvreté et cette condition économique, elle va créer aussi une réponse, en fait, à l'égard du système capitaliste, et que là, l'État, il va devoir prendre comme rôle d'aller emprisonner, enfin, mater dans un premier temps, et emprisonner les gens... qui vont remettre en question ce système parce qu'ils en sont aussi les premières victimes. Je sais pas, mais voilà.
Oui, mais de toute façon, la question de la pauvreté dans la question carcérale ou judiciaire, elle se joue même de manière plus large. C'est que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un avocat, d'avoir les informations, de savoir comment tu fais appel, comment tu vas en procès, etc. Tout le monde n'a pas les moyens d'entretenir un frère, un mari, un pote en prison, d'envoyer des mandats, de payer ce qu'il faut payer. Enfin, c'est vraiment dans 8 milliards de strates infimes. Et évidemment que les personnes les plus précaires vont être 1000 fois plus touchées. D'abord du fait de... moi, pour prendre l'exemple de mon frère, c'est un gamin qui a eu son BTS avec 16 de moyenne, qui a jamais réussi à trouver un taf parce qu'il porte un nom qu'on n'aime pas trop et une barbe, etc. Et qu'on l'envoyait toujours sur des chantiers, des trucs comme ça. À un moment donné, tu fanes au quartier, tu sais pas quoi faire, t'as besoin d'argent, tu trouves des manières d'en faire. Donc finalement, tu te fais attraper, t'atterris en prison et au final, en fait, ta famille qui est déjà pauvre se retrouve à devoir payer des frais d'avocat mirobolants et des frais de justice mirobolants. Enfin, c'est un espèce de cercle vicieux comme ça qui, évidemment, quand t'es riche...
Ouais, on voulait inviter Carlos Ghosn sur le plateau, mais on s'est dit que c'était peut-être pas trop pertinent, quoi.
Mais il y a que 4 micros, de toute façon.
Puis il est bloqué au Liban, le pauvre.
Et puis même concrètement, moi j'ai l'impression que ce truc de rapport à... Qu'est-ce qui... Que c'est la pauvreté qui doit être réprimée et inversement, c'est les pauvres qui sont réprimés, etc. Et du coup, c'est aussi, genre, basiquement dans les lois du code pénal, les atteintes aux personnes, par exemple, elles sont tu risques moins, tu prendras moins cher en termes d'années potentielles de prison que les atteintes aux biens et à la richesse, et aux banques, et aux. Tu vois, enfin, voilà. C'est genre. Voilà, tu peux. Ouais.
Enfin. Ouais, mais quand t'arrives au tribunal, finalement, on fait un peu la liste de ce qui va pas sur toi, quoi. Que ce soit, en fait, vous avez pas de travail depuis tant d'années, en fait, vous faites rien, en fait, vous avez pas vraiment de logement, l'adresse que vous avez donnée, c'est un pote qui vous héberge, en fait, et là, on fait une liste, et c'est un peu des points de marginalité, j'ai l'impression, quoi. Et en fait, ça augmente, et on rajoute
C'est l'aspect. C'est ce qui fait que t'es dangereux pour la société.
Voilà, c'est ça. Et on en revient à qui tu es, et voilà ton nom, quelle consonance il a, et en fait, c'est des points, et en fait, là, un avocat que t'as pas l'argent d'en payer un dingue, et en fait, à la fin, c'est ce que tu disais, quoi, c'est le cercle sans fin, et la finalité, au final, c'est un peu une défense pour. Tu passes au tribunal pour passer au tribunal, mais bon, c'est pas comme si ça changeait quelque chose.
On va faire une petite pause musicale. Michel, la technique, c'est Michel.
قماش حرير زيت في زينك والحايط مزين لك عينك تقريتها فوتة وبلوزة سفساري لبسامة تروزة سفساري لبسامة تروزة الفلح الفاوي شنيا الزين وشنيا العين اللي يشوفك يبكش من القهرة يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة يا ولا وهرة حسرة يا ولا وهرة يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة على صف سارينا حسرة على صف سارينا حسرة على صف سارينا يا حسرة على صف سارينا يا حسرة على صف سارينا جاء زمان وجاء زمان والدنيا ما فيها ما انت تبدلت ونس العزيزة وانسانا ولا أوين الزين وين العين شسر ساري في الساحين لك حلسات في البلاد وين ماشي في قوي عباد أوين ماشي في قوي عباد فولارا روز بالعدس الجيب تخبي تجيني رسيا ناري على سفسارينا الدم وتحط في تركينا الدم وتحط في تركينا يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا à leur démence, celle de se couvrir soigneusement, se cacher l'âme pour affronter le blâme, le voile, l'Occident, le croix, tradition, devenue colonie du Moyen-Orient, comme pour s'émanciper de celle d'avant, je rêve du voile d'antan, Sefseri le blanc, celui de nos aînés, il s'est transformé, bariolé, le visage déguisé, grimaçant, les deux rives se regardent, hargneusement, les deux rives se regardent, hargneusement, les deux rives se regardent, في فكري خليني يمي في شونك ماشي نغزل العيون ها ترجع بي الدنيا التالي ونعود نشوف السفساري خليني يمي في شونك ماشي نغزل العيون يا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا
Breaking news. Nous interrompons nos programmes brièvement pour vous dire que la manif de ce matin s'est terminée en occupation des Galeries Lafayette à Toulouse et qu'il y a encore du monde, on nous dit qu'il y a au moins 200 personnes là-bas. Du coup, si vous y êtes, emmenez votre poste radio, mais allez-y quoi. Enfin, si vous y êtes pas, je veux dire. voilà.
On a piraté la sono des Galeries Lafayette.
Ouais. Si, si. Ça serait bon, ça. Vous entendez les galeries, ouais.
Vous nous entendez, push-up.
Et du coup, on va revenir sur notre débat répression. On espère que ça viendra le plus tard possible du côté des Galeries Lafayette. On était, il y a quelques années, en 2015, juste après la proclamation de l'état d'urgence. À Toulouse, il y avait un congrès du syndicat de la magistrature pendant lequel il y avait des conférences, et notamment, entre autres personnes, il y avait Vanessa Codaccioni, qui est maîtresse de conférences à Sciences Po, et il y avait Karine Parot, qui est prof de droit à Cergy-Pontoise, et qui ont fait un peu une chronologie des lois, alors pas répressives, enfin elles sont répressives, mais c'était pas les lois répressives, c'était les lois d'exception. Et du coup ça revenait à De Gaulle, alors moi j'ai pris quelques notes... J'ai réécouté ces sons et je vous ai pas fait un montage parce que le son est d'assez mauvaise qualité. Mais j'ai merci Michel. mais j'ai pris des notes et tout. Et du coup, bah, très rapidement, voilà, ce qu'elles nous disent, c'est que en 63, De Gaulle établit toute une série de tribunaux d'exception pour juger, à la base c'est ça, pour juger les membres de l'OAS, qui avait quand même fait des putsch, qui voulait lui mettre sacrément des bâtons dans les roues, voire le buter. Et du coup, des tribunaux militaires, des tribunaux politico-militaires, toute une série, quoi, avec différents pouvoirs, différents, voilà. Et l'idée, c'était d'établir vraiment une justice d'exception avec des délits mitonnés pour l'occasion, enfin des définitions de délits, des, comment ils disent déjà, je me rappelle plus des... Bon bref, peu importe. Et du coup, voilà, De Gaulle crée ça en 63, et dont, en particulier, la Cour de Sûreté de l'État, qui va être un peu l'outil phare pour aller juger tout ce qui est politique, en fait, tout ce qui est procès politique. Et notamment, c'était pour l'OAS au début, mais ça va se retourner pas mal contre l'extrême-gauche dans les années 70, avec Action Directe, avec l'ETA, avec voilà, différents groupes comme ça. Voilà, en 81, il y a les socialos qui arrivent au pouvoir avec un discours d'arrêter tout ce cirque et la justice d'exception et de dire qu'on est tous dans le même bateau, donc on a tous droit à la même justice, tout le monde est de droit commun. Ce que ça cache, c'est clairement la dépolitisation en fait des délits, parce qu'en fait il y a toute une sorte de gens qui commettent des délits à des fins politiques en fait, enfin voilà. Et que du coup là, c'était l'idée de dépolitiser ça pour ne garder derrière en 86, on passe des lois, on réinstaure une justice d'exception un peu en loose day, c'est-à-dire que tout le monde est toujours de droit commun, il n'y a plus de prisonniers politiques et tout ça, mais il y a certains délits qui sont de droit commun qui prennent une autre ampleur en fait. Quand ils sont pour but de troubler l'ordre public par intimidation ou par la terreur. Mmh. C'est là qu'arrive en fait la justice antiterroriste. Et où on va dire en fait que les terroristes sont là pour... en fait, tout ce qu'on a dit sur la répression juste avant, sont là pour faire peur, pour déstabiliser, et qu'en fait c'est des grands méchants loups et qu'il n'y a aucune logique à ce qu'ils font en fait. Ils sont juste là pour buter et faire le mal. Avec un grand M, et qu'en fait, on dépolitise tout ça, on réfléchit pas à qu'est-ce que ça veut dire, et quelle organisation de la société ça vient bousculer ou pas. Enfin, voilà, on se pose plus ces questions-là, en tout cas dans les tribunaux. Donc ça, c'est en 86, c'est sous les socialos. Et alors, à partir de là, on commence à agrandir. On reviendra plus jamais à une justice d'exception comme elle existait sous De Gaulle, mais par contre, enfin plus jamais, jusqu'à l'état d'urgence en fait. En 2000, pas celui de 2005 dans les banlieues parce qu'il a été, limité dans le temps, et que en fait celui de 2015 a été introduit dans la loi par la suite, mais j'y reviendrai. Et du coup, à partir de 86, il y a toute une série de listes de délits de droit commun qui rentrent petit à petit de plus en plus dans ces qualifications terroristes. Notamment en 92, on vient y ajouter l'atteinte aux biens. Donc on peut faire un graffiti, ça peut être qualifié de terroriste, par exemple. Sachez-le. En 96, on y ajoute l'association de malfaiteurs, bien connue de beaucoup de militants et militantes, puisque c'est sous ce titre-là qu'ils sont souvent inculpés. Donc association de malfaiteurs en relation à une entreprise terroriste en vue de la préparation... blablabla, je sais plus la suite, mais voilà, et ça devient un peu la clé de voûte de la justice antiterroriste, et ça permet une procédure dérogatoire avec à peu près rien, en fait. C'est-à-dire que on se dit, bah, vous vous êtes associé pour faire de la merde, mais vous n'avez pas forcément fait de la merde, mais en fait, vous vous êtes associé pour le faire. Et en fait, on passe à une justice prédictive, et plus à une justice de punition de ce qui a été fait, en fait. Voilà. T'avais quelque chose à dire ? Voilà, et après, bah, à partir des années 2000, ça ne s'arrête plus, quoi, en fait. Il y a une surenchère de lois à chaque attentat, à chaque... tout ça est très médiatique, on va y revenir aussi. Dès qu'il y a un attentat, on fait des lois, en fait. et on politise toujours pas tout ça. Et ça, on arrive à 2015 avec l'état d'urgence, suite aux attentats du Bataclan. Et l'état d'urgence qui était au départ pour un mois, je crois, puis pour trois mois, puis pour six, puis en fait ça a été prorogé jusqu'à la dernière prorogation qui était avant la fin du gouvernement Hollande, qui a prorogé jusqu'à après les élections présidentielles en disant quel que soit le gouvernement élu, l'état d'urgence continue. Et jusqu'à ce que en fait Macron le fasse passer dans la loi et fasse passer dans la loi toute une série de lois. Qui, en fait, aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, vient mettre... je sais pas si je le disais tout à l'heure, enfin, en tout cas, je l'ai dit dans ma tête, vient mettre en avant surtout une politique répressive en amont du procès, de surveillance, de donner des outils aux flics en fait pour pouvoir t'arrêter sans forcément que t'aies rien fait en fait, juste parce que ils ont envie de t'arrêter, ils ont décidé qu'ils allaient t'arrêter ce jour-là, et donc ils vont dire que tel ou tel prétexte, et ça en vient maintenant au délit de regroupement en vue de commettre je sais plus c'est quoi, mais qui a été beaucoup utilisé contre les gilets jaunes. Ouais, en vue de commettre un crime ou un délit. Il y a plein de gens sur les manifs des gilets jaunes qui arrivaient au début de manif, qui étaient embarqués de base, et on leur disait vous faisiez partie d'un regroupement en vue de commettre un crime ou un délit, pouf, comparution immédiate, trauma de tôle, voilà. Voilà, ça c'était pour refaire un peu un historique de toutes les lois. D'abord antiterroriste, comment on dépolitise la question dite terroriste. Et du coup, la question aussi des contestations et tout. Et comment, en fait, ça vient à devenir la norme, quoi.
En même temps qu'il y a cette dépolitisation, je ne sais plus à partir de quand c'est, mais tu disais les années 80, il y a dans le médiatique et dans le discours du gouvernement, il y a le passage au registre de la folie pour parler des délits. Tu vois, on passe de... en même temps qu'on dépolitise, on utilise le... cette personne a fait ça, mais voilà, c'est une personne qui ne va pas bien, qui mentalement... a des problèmes, enfin on passe sur en plus de c'est pas politique, c'est quelqu'un qui va pas bien, donc faire ça c'est des personnes c'est des fous, c'est des folles.
Oui, c'est ce que je voulais dire, dépolitiser c'est aussi individualiser, psychologiser, etc. Les personnes, ouais.
Et du coup, pour terminer, Karine Parot qui parlait à cette conférence nous disait ceci. Bonsoir.
On ne peut pas prévenir le terrorisme de manière absolue. C'est pas possible, ça fonctionne pas, on l'a vu récemment, bien sûr. Tout cet arsenal ne marche pas. Donc je me pose la question, et je pense que ceux qui nous gouvernent ne sont pas non plus des imbéciles, et je pense que pour une large part d'entre eux, non, pas que pour les imbéciles, pour pas que les pour une large part d'entre eux, ils en sont également convaincus. Ils savent que c'est pas en mettant un flic en déployant l'armée dans les rues qu'on luttera contre le terrorisme. Donc je me pose la question de savoir à quoi sert cette législation hyper intrusive antiterroriste. Et il me semble qu'elle s'insère dans un dispositif d'hyper contrôle, d'hyper surveillance. Et cette société de contrôle, elle participe à une mutation, à mon avis, politique très profonde, parce que finalement on est tous habitués à être fichés, à être vidéosurveillés, à être limite écoutés, photographiés, etc. Et il me semble que ça partie d'une mutation de la démocratie. Je pense qu'il faut laisser tomber cette catégorie de démocratie. Oui, on est en démocratie, mais en même temps, on est dans une démocratie, oui, mais il y a une mutation importante. Est-ce qu'on est le champ de la liberté individuelle, le champ qui nous est offert pour repenser l'organisation politique, me semble être en partie réduit par cette législation d'exception et tout ce qui va autour. Merci.
Voilà, du coup, moi, je suis allé un peu creuser ça, déjà parce que j'y connaissais rien, donc je me suis un peu posé la question de c'était quoi l'évolution de ces lois-là. J'ai bien aimé la formule que tu as eue tout à l'heure de dire la répression est un peu... c'est toujours le même mécanisme, c'est juste que ça change de visage. Karine Parot, elle dit on est toujours en démocratie, mais il y a une mutation, on passe à une société de l'hyper-contrôle, de l'hyper-surveillance. Bon, on peut en discuter ou pas de ça, mais en tout cas il y a quand même un truc de... Effectivement, je trouve qu'il y a entre les années 60 où De Gaulle institue des tribunaux militaires, des trucs très bourrins, visibles, on bombarde, et aujourd'hui où la répression est à la fois assez violente et à la fois assez cachée pour une grande partie de la population, même si elle l'est de moins en moins, il y a quelque chose qui bouge, quoi, qui se transforme. Il y a des mutations... voilà, et du coup, je voulais en parler avec vous, voir ce que vous en pensiez,
Je pense qu'il y a des choses qui se transforment, mais aussi, moi là où je suis pas hyper d'accord avec ce qui est dit dans son truc, de dire que c'est une démocratie qui mute et qui va dans l'hyper-contrôle, moi je dirais juste c'est une démocratie qui se dote de plus en plus de moyens de contrôle, et que, plus... plus la technologie avance et plus en fait cette technologie est utilisée et son but même de création en fait de ces moyens technologiques sont bien pour maîtriser en fait la population et donc bah pister les gens sur les réseaux sociaux, les pister avec des caméras, les pister avec leur téléphone, les pister avec leur compte en banque, etc. Et que, du coup, enfin voilà, de la fin, oui. Genre, je pense enfin c'est ouais, elle change de visage parce que en fait le temps passe et qu'on il y a toujours cette fuite en avant vers le progrès, cette illusion du progrès qui n'est que juste se doter de plus en plus de moyens pour faire en sorte de réprimer les gens. Et après ouais, moi je trouve qu'il y a un truc que du coup qui était pas qu'on peut genre approfondir un peu plus sur ce truc de loi antiterroriste et tout. Moi j'ai l'impression que qu'un des trucs qui moi m'avait marqué quand il y a eu bah voilà les premiers grosses perquises sur des trucs de anarcho-autonome, les terroristes anarchistes, etc., c'était vraiment ce truc de
après l'état d'urgence
avant. C'était 2008 okay. Du coup okay. Plutôt. Et c'était vraiment ce truc de en fait genre il y a pas besoin de se prendre la tête à avoir fait quoi que ce soit, c'est juste l'intention en fait. Genre on s'en fout si les faits on peut les prouver ou pas. À partir du moment où tu dis dans tes textes, où tu dis dans ton existence même, en fait, que ben, tu arrêtes de reconnaître cet état et que tu veux sa destruction totale, ben, potentiellement, en fait, tu t'exposes à un truc de loi antiterroriste. Mais bon, enfin, après, comme tu le disais aussi, à un moment, ces trucs d'intention, en fait, maintenant, elles sont juste dans le fait de venir en manif, tu participes à une manifestation, et ben, potentiellement, tu vas... faire des dégradations ou des violences qui sont une menace pour l'État, qu'elles aient été faites ou pas, que tu en sois l'auteur concret ou pas, on s'en fout complètement. Voilà, et c'est pas pour dire non plus qu'en fait il faudrait, genre il y a un truc de si on vraiment on était innocent et que si l'État reconnaissait notre innocence, etc., ben ça serait bien. Non, enfin il y a pas d'innocence ou enfin innocent coupable, c'est voilà, c'est juste à un moment est-ce que on peut te mettre des choses sur la gueule ou pas, et puis voilà, c'est tout. Est-ce qu'il faut te réprimer? Est-ce que c'est utile de te réprimer pour l'État, quoi?
Bah, c'est ça, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc de... aussi, comme on veut interpréter tes faits, tes gestes, ta vie, quoi. Si on a décidé de l'interpréter pour dire que t'as l'intention de détruire l'État, par exemple, bah voilà, on va te mettre en prison. Quelles que soient toi tes intentions réelles, en fait, quoi.
Et ça fait une très belle transition avec ce truc de médiatisation, bah parce ouais. Que du coup, c'est aussi comment, et ça fait un peu du lien aussi avec tous ces trucs de crimes policiers, où du coup, ben, c'est comment on va justifier qu'à un moment, la personne qui a pris de la violence, la personne qui a nanana, ben, en fait, elle avait cherché un peu, elle est responsable de... Pardon.
Oui, et je rajoute juste par rapport à ce que tu disais, en fonction de ce que tu fais, c'est aussi... beaucoup en fonction de ce que tu es à plein de moments, et que moi, pour avoir été touchée directement de ma famille par des perquises après l'état d'urgence et connaître des copains qui ont été touchés, etc., c'était vraiment un truc de sur la base d'un nom, d'une barbe, de vraiment rien du tout. Et je crois que de manière générale, moi j'ai un peu du mal à avec l'idée de linéarité du temps, là, comme si on allait vers quelque chose d'autre. J'ai l'impression que c'est tout le temps une contextualisation permanente avec l'évolution des outils, etc., qu'il y a. Mais de la même manière que j'aurais du mal à dire c'était mieux avant, parce que par exemple, je pense que dans les colonies, c'était... bon, voilà,
c'était
bref.
Pas du tout mieux.
C'était pas du tout mieux, mais c'est juste une manière, j'ai l'impression, plus dans l'espace de resituer des choses et de reprendre ce qui est fait là pour le refaire là. Et quoi, le penser en termes d'évolution, c'est rester encore dans le carcan de comme si ce système il pouvait progresser à un moment donné et tendre vers quelque chose, alors qu'en vrai j'ai l'impression que c'est plus un truc qui tourne en rond de manière complètement cyclique et qui se contextualise et se rend permanent de manière systématique. Et voilà.
Et ouais, bah, en fait, moi ça va rejoindre la question de la médiatisation aussi, mais là j'ai l'impression qu'on parle pas mal en ce moment de fascisation. De la société ou de l'État ou de je sais pas. Du coup ça résonne avec ce que tu dis, en fait il n'y a pas de fascisation, il y a, y a un, État fasciste, quoi.
Ouais, pour moi c'est toujours constant, et l'écueil c'est de croire qu'il y a quelque chose qui évolue alors que c'est juste une manière, j'ai l'impression, comme pour un appareil photo, sur quoi tu mets la focale à un moment donné et sur quoi tu la mets pas, mais ça veut pas dire que ce qui est dans l'ombre n'existe pas, c'est juste que bah, c'est plus de l'ordre de comment tu rends visible justement ce qui est dans l'ombre pour le faire résonner avec ce qui se passe de ce qui est dans la lumière et montrer qu'il y a un global répressif et que c'est comme ça.
Et peut-être pour rebondir sur là où tu mets la focale, j'ai fait un petit medley sur différents discours qu'on peut entendre dans les médias. Donc c'est des prises de parole qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres, mais c'est de se poser un peu la question, ben, que ce soit quand on écoute les médias dominants ou d'autres discours, qu'est-ce qu'on peut entendre en fait au sujet des violences policières et judiciaires aujourd'hui. Du coup, il y a... voilà, il y a un petit extrait d'un média mainstream qui parle de, qui est un peu un exemple de traitement de comment on peut parler des violences policières en manif aujourd'hui. Ensuite, il y a une déclaration de Macron. Il y a ensuite, il y a une déclaration d'un commissaire au sujet du croche-patte qui a été filmé et qui a fait le buzz à Toulouse il y a 2 semaines. Ensuite, il y a un extrait en fait d'un discours d'un flic qui fait partie du syndicat Vigipolice, du coup c'est une branche de la CGT, qui a un discours qui est un peu différent des syndicats comme Alliance ou quoi, hein, sans dire que c'est ce qu'on a envie de, sans dire qu'on a envie de leur donner la parole, mais qui ont leur propre discours sur comment la police elle se réforme à l'intérieur d'elle-même, peut-être pour se légitimer aussi avec tout le système de l'IGPN et tout ça. Et pour finir, il y a un extrait en fait d'un discours ou d'une prise de parole d'Amel Bentounsi. Voilà, du coup, on peut lancer et réagir après ce petit zapping.
C'est peut-être l'image de trop. Ce samedi, lors de la manifestation des Gilets jaunes à Paris, un homme est interpellé. Visage ensanglanté, il est maintenu violemment au sol par un policier. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et confiée à l'inspection générale de la police nationale. La porte-parole du gouvernement, Simbeth Ndiaye, a estimé qu'il ne fallait pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la police. Mais depuis plusieurs jours, le discours du gouvernement sur le sujet des violences policières semble s'infléchir. Après plus d'un an de mouvement des Gilets jaunes émaillé par de nombreuses violences, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a appelé les fonctionnaires à l'exemplarité et à l'éthique. Emmanuel Macron a également évoqué des comportements inacceptables.
J'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. Il y a eu, très clairement, des images, des comportements qui ne sont pas acceptables, ont été ou vus ou pointés.
Le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, David Lebars.
Le ministre parle d'un croche-patte à l'éthique, c'est un croche-patte à la police nationale. C'est le genre de geste, on peut toujours essayer de contextualiser, je prends le moins grave volontairement, mais symboliquement il fait tout aussi mal que des violences qui peuvent entraîner des blessures, j'imagine, j'espère que le croche-patte n'entraîne pas de blessures. Mais
il aurait pu, cela dit.
Il pourrait, mais j'ai pris celui-là volontairement parce qu'un simple geste, isolé dans une image, ce geste-là, personne ne peut le comprendre, il fait mal à toute la police.
Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de lui, policier, qui fait ça?
Mais il y a sans doute plein de choses, mais je vais vous dire, il y a de la lâcheté déjà, et puis c'est une femme. Moi, c'est des choses, voilà, c'est dur à dire, mais il faut savoir
deux,
le dire.
Ils sont deux à réaliser. Il y en a un qui pousse et l'autre qui fait le croche-patte.
Je l'ai vu après, mais le croche-patte, je vais vous dire, on peut chercher toute la journée ce qui s'est passé, et je le sais en tant que policier, j'ai des contacts à Toulouse, ils subissent énormément d'agressions, mais ce geste-là,
il
vient effacer tout ce qui aurait. Par de l'exaspération, de la fatigue, de la bêtise. C'est un mauvais geste, c'est un geste qui nuit à l'institution. Il ne faut pas mettre toute l'institution dans le panier de ces mauvais gestes, parce que tous les policiers ne se comportent pas comme ça. C'est là où on ne sera pas d'accord, parce qu'il ne faut quand même pas non plus stigmatiser l'ensemble d'une profession. Mais il y a des mauvais gestes, et ces mauvais gestes-là, le ministre, c'est son devoir de se prononcer dessus.
Moi, effectivement, cette logique...
Noam Anouar, du syndicat Vigipolis, branche de la CGT.
Sans doute intéressante en termes de communication. Mais en fait, alors quand on repositionne le débat, si vous voulez, la police, elle agit effectivement dans un cadre. Dans un cadre judiciaire. Donc, qui dit judiciaire dit justice. Donc, l'idée, c'est de faire appliquer la loi et de prendre des mesures justes. Et moi, si vous voulez, je suis pas là en tant que délégué syndical pour défendre le camp de la police, mais pour défendre celui du bon droit et de la justice. Et quand un policier commet un acte délictuel ou un acte d'agression à l'encontre d'un manifestant, je peux pas, si vous voulez, par principe ou par corporatisme, prendre parti pour ce policier. Et là, moi, je suis gêné quand même, que depuis quelques jours, de cette prudence qu'on peut avoir sur les mots. C'est-à-dire que quand on voit un policier qui délibérément fait chuter une jeune fille ou frappe une personne âgée, je suis désolé, je peux pas défendre ça. J'ai prêté serment, j'ai la chance d'être fonctionnaire assermenté et je peux pas
vous
défendre
ces choses-là. Parfois l'esprit de corps mais je comprends de certains pas syndicats policiers.
Si vous voulez, politiquement, ça s'explique. Le ministre de l'Intérieur aujourd'hui et d'ailleurs l'ensemble du gouvernement ne tiennent que grâce à l'action de la police. C'est-à-dire qu'ils ont tout le monde à dos. Vous voyez bien que les avocats ont jeté leurs robes, les ont suspendus à des grilles. Vous avez le corps médical, les 1000 médecins ont démissionné en bloc, le corps enseignant, toutes les professions, la SNCF, les cheminots, etc. Aujourd'hui, il n'y a que la police justement qui puisse tenir l'action du gouvernement. Si demain la police est dans la rue comme elle l'a été en 2016, c'est terminé. C'est-à-dire
qu'on laisse un peu passer les choses à cause de ça. C'est ce que vous dites.
Le ministre de l'Intérieur, on l'a bien vu au vœu du DGPN hier, caresse la police dans ce sens.
Quoi, il a changé un peu de ton.
On a même un responsable syndical qui a obtenu, je crois, ces derniers jours, une mutation dans les îles et une ouverture de poste pour son épouse.
Amal Bentounsi du collectif Urgence Notre Police Assassine. Je fais partie de ce collectif depuis 2012, depuis la mort de mon frère Amin Bentounsi qui a été tué d'une balle dans le dos à Noisy-le-Sec le 21 avril 2012. Pour moi, il était essentiel de mener un combat collectif puisque je me suis rendu compte que mon frère n'était pas la seule victime et qu'il y en avait bien d'autres avant. Il faut rappeler que les victimes, ce sont essentiellement des Noirs et des Arabes. Et on est à 15 morts par an. Ça, c'est les chiffres pour 2015. Le constat qu'on fait, c'est que la justice, elle ne fait rien, en fait. Elle essaye de mener, soi-disant, d'ouvrir des pseudo-procédures, mais on sait pertinemment comment ça se termine. On sait pertinemment qu'à chaque fois, ça se termine par un non-lieu. À chaque fois qu'une personne meurt entre les mains de la police, il y a un processus qui est identique à chaque fois. C'est la criminalisation de la victime à titre posthume, de façon à faire croire qu'elle serait responsable de sa propre mort. On a l'habitude de voir les gros titres et on a l'habitude que les médias relaient uniquement la version policière. Donc nous, depuis 2012, on essaye de sensibiliser ces journalistes.
Ouais, du coup, la question qu'on peut se poser, oula, sans transition, c'est comment on se positionne par rapport à ces discours-là, médiatiques, comment on répond, comment on utilise les médias, comment est-ce qu'on visibilise nos luttes, et notamment les luttes qui concernent la répression policière, judiciaire, la prison. Voilà, vous avez 2 heures.
Et peut-être, si je peux rajouter une question, c'est pourquoi on médiatise là, alors que ça ne l'était pas forcément avant. Enfin, est-ce que vous avez une idée de ça? Et qu'est-ce que ça provoque?
Moi, j'ai l'impression que, enfin, là, il y a plein de choses assez intéressantes qui ont été dites quand même, même par le keuf, etc. Là. Mais c'est ce truc de individualiser à fond ou criminaliser la personne ou la victime, ou on appelle ça comme on veut. Et je trouve que ça fait grave sens avec ce qu'on parlait de justice d'exception et tout à l'heure, où c'est exceptionnel, il s'est passé quelque chose. Et quand on parle de violence policière, c'est souvent incroyable, plaquage ventral, ils n'ont pas le droit de faire ça, tirer à bout portant de LBD à moins de 10 mètres, ils n'ont pas le droit, c'est interdit, c'est illégal et tout. Et en fait, je trouve à chaque fois, ça participe grave à... il avait pas le droit, du coup la police fait pas ça normalement quoi. Sauf qu'en fait je trouve, je sais pas, il y a des slogans de manif assez intéressants de la police mutile, la police assassine et la justice acquitte, ou de la police fait son travail, ça crève les yeux, tout ça. C'est un peu bateau comme ça, mais en vrai, je pense que ouais, la police fait son taf quoi. C'est son taf de maintenir un ordre et la violence fait partie de son travail. En fait, il y a pas de bavure, il y a pas d'exception dans la violence policière, il y a pas ce truc de ça craint, ils ont fait un croche-patte ou ils ont tiré à bout portant. En fait, il y a une violence utilisée par la police, elle est là, et ils font un peu ce qu'ils veulent comme ça, et c'est pas un truc de fou, quoi. Et du coup, individualiser à fond chaque chose, ou au final, visualiser une vidéo et la montrer partout, et pour dire, non mais là, c'est vraiment abusé ce qu'ils ont fait et tout, je trouve que ça participe un peu à un truc d'éteindre qu'est-ce que c'est la police, en fait, et qu'est-ce qu'elle fait, et c'est quoi son taf. Et en fait, elle fait son travail, quoi.
Et je rebondis sur ce que tu dis, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc de sensationnalisation, d'exceptionnalisation de certains actes ou certains faits, etc. Et pour le coup, au niveau de la médiatisation, c'est aussi s'entendre sur c'est quoi les médias et qui en parlent, etc. Parce que pour le coup, il y a eu plein de comités, par exemple, qui se sont montés à la suite de morts de personnes. Je pensais à Ramata Dieng en 2007, quand son frère Lamine Dieng a été tué, et qui a pas mal lutté et milité contre l'arrêt de ses plaquages ventraux, justement, etc. Le même qu'a tué Cédric Chouviat il y a à peine un mois, je crois, même pas. Et du coup, c'est aussi genre... J'ai pas l'impression que ce soit plus médiatisé, mais c'est d'autres formes de médiatisation pareil, parce que moi, je suis pas mal de, par exemple, de pages Instagram ou sur Snapchat. Il y a des vidéos qui sont faites de contrôle d'identité, de comment ça se passe, de c'est quoi le quotidien dans les quartiers notamment, ou de manière plus large. Et de la même manière, en parallèle de médiatisation, il y a aussi toujours l'absence de médiatisation, comme par exemple pour l'affaire de Daniel récemment, qui a pris une fuite. Du coup, trois jeunes amurés après un braquage prennent la fuite, sont poursuivis par la gendarmerie. Ils arrivent au niveau d'Ampalo, deux d'entre eux sautent par la passerelle, atterrissent dans l'eau. Il y a eu un seul article et les recherches ont été arrêtées par la gendarmerie de manière précoce. Nous, on était en contact avec la famille qui était complètement dupée, en mode « qu'est-ce qui se passe ? Personne n'en parle, ni rien du tout ». Un article sur la Dépêche, un article sur Actu Toulouse, je crois, récemment, en plus complètement dégueulasse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est passé complètement sous le silence, alors que dans le même temps, tu avais un gamin de 17 ans disparu qui a plongé dans l'eau en plein hiver, qui au final du coup vient d'être retrouvé, le corps a été retrouvé, la reconnaissance ADN a admis que c'était bien Daniel. Et du coup moi ça m'a fait un peu un tic aussi entre la... Je dirais pas surmédiatisation, parce que c'est jamais surmédiatisé quand on montre des images de violences policières, mais le traitement médiatique en tout cas de ce croche-pat par exemple, est en parallèle, mis en parallèle avec le traitement médiatique qui a été fait de Daniel, où du coup il y a encore deux poids de mesure. Et je rappelle aussi que Daniel est d'origine roumaine, qu'il y a un truc aussi qui se joue à ce niveau-là, en termes de race, de classe. Voilà.
Du coup, c'est clair, même par rapport à l'exemple du croche-patte, c'est assez dingue comment, déjà, il y a une temporalité de buzz qui s'instaure, et où, du coup, cette personne-là, elle a été... toutes les déclarations qui s'en sont suivies, c'était vraiment... ils ont construit l'arbre qui cachait la forêt, en fait, en montrant une gilet jaune blanche meuf qui se faisait humilier, ou on peut appeler ça comme on veut, mais c'est en fait elle, ça vient désapproprier aussi à toutes les personnes. Enfin, cette image médiatique, je trouve, j'ai l'impression, c'est super compliqué de s'exprimer à ce moment-là.
Oui, après, ça amoindrisse pas du tout qu'est-ce qui s'est passé, et de fait, c'est de la violence policière, et c'est dégueulasse, et c'est inadmissible ce qui se passe, et bien sûr, puisque moi, je suis complètement contre le fait de hiérarchiser, c'est juste contextualiser à certains moments donnés. C'est comme le mouvement des Gilets jaunes, en vrai, il y a eu une morte, il y a eu Zina Bredouane à Marseille, au début du mouvement, et s'il n'y avait pas eu des personnes qui se sont mobilisées pour en faire parler, etc., ça serait passé sous silence aussi, alors qu'en vrai, ce mouvement a déjà connu une personne qui a été tuée.
J'ai l'impression qu'en fait, je trouve que c'est hyper compliqué ce truc de rapport aux médias dans le cadre de la répression et des violences policières, parce que d'un côté, en fait, il y a ce truc de il faudrait communiquer pour que un maximum de personnes soient au courant de ce qui se passe et de ce que fait la police, mais en même temps, il y a ce truc de en fait, plus on médiatise les violences policières, et plus, en fait, j'ai l'impression qu'on repousse les limites de l'acceptable. Il y a quelques années, voir des gens se prendre des coups de matraque et avoir le crâne ouvert, c'était genre absolument inacceptable. Et maintenant, aujourd'hui, c'est genre... on voit les gens avec leurs mains explosées par le Gli F4, c'est inacceptable non plus. C'est comme à force de voir toutes ces images... on repousse ces limites de l'acceptable, et en fait c'est comme si ça nous insensibilisait au fur et à mesure sur l'action de la police, et que du coup je suis désolée, j'arrive plus trop à voir où est-ce que je veux en venir, mais enfin du coup voilà, genre j'ai l'impression que c'est assez dur en fait de toucher du doigt réellement comment on peut réussir à s'en sortir dans ce rapport aux médias, par exemple, et dans un truc de lutte contre la répression, avec un peu un truc de cul entre deux chaises, de à la fois il y a des choses qu'il faut montrer, et parfois ces vidéos elles peuvent être utilisées dans des procès potentiellement, etc., et que du coup ça peut servir concrètement, et ça peut être des choix de stratégie pour les personnes qui sont concernées, mais d'un autre côté ce truc de d'arbres qui cachent la forêt, et de ce truc de genre de course au spectacle,
à l'image quoi.
Oui, moi je te rejoins sur comment on intègre en fait la violence policière, comment en fait on peut la normaliser, ou je sais pas, comme tu dis, repousser les limites, et la peur en fait, aussi on cultive l'image de la peur et de la violence, peut-être, tu vois, les effets que ça a sur nous, sur les gens qui auraient envie de se mobiliser, etc. Enfin, on partage aussi ce truc, et je pense que ça peut faire partie d'augmenter la menace, quoi.
Ouais, mais...
Vas-y, je rebondirai après.
Moi, il y avait aussi un truc de... Ça me fait penser à deux trucs. Il y a aussi les personnes qui se retrouvent violentées par la police et qui n'en meurent pas. Et à qui on va, qui vont être projetés sous le feu des projecteurs, des médias, et où du coup ces personnes-là aussi se retrouvent face à encore une autre forme de violence, où du coup elles sont ensevelies sous des requêtes et des demandes répétées de devoir se justifier, se positionner, expliquer, machin et tout ça, ce qu'elles auront déjà à faire sûrement devant un tribunal. Donc c'est encore une autre violence qui amène aussi de la peur pour les proches de ces personnes-là, pour cette personne, les proches et puis tout ça. Il y a ce truc-là, et ça me faisait aussi penser à un autre truc, c'est peut-être aussi la façon dont on médiatise. Là, on parle quand même... Enfin, j'ai l'impression que dans médiatisation, arrêtez-moi si je me trompe, mais on parle de médias de masse.
Ou de réseaux sociaux.
Ou de réseaux sociaux. Mais que j'inclus un peu dans les médias de masse aussi. Mais en fait, pour moi, il y a deux trucs. Tu as parlé de communiquer sur ça pour dire que ça existe et pour visibiliser ces violences-là, parce qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et qu'il faut qu'on se batte contre. Et du coup, ça, c'est aussi le rôle de certains médias, en tout cas. Et ce que j'ai l'impression on essaye de faire, en tout cas, certaines personnes à Canal Sud. C'est pas pour défendre la paroisse, hein, mais c'est juste... pour dire qu'il y a peut-être différentes formes de médiatisation aussi, quoi. Et que c'est peut-être pas les plus visibles, les plus intéressantes.
Oui, carrément. Mais tout comme un atelier, pour en discuter, c'est aussi une forme de médiatisation de ce qui se passe, etc. Et c'est là où je rejoins, et à la fois je suis pas trop d'accord avec ce truc de comme si, en voyant plus d'images, ça allait faire plus peur. Puisque si je rebondis sur ce qu'on se disait au début, en fait, la peur, elle est là de toute manière. Mmh. C'est juste qu'elle vient trouver un écho. Et c'est plus moi dans ma tête et ma perspective. Comment on fait en sorte que ces échos se rejoignent de manière à prendre en compte vraiment tout... l'entièreté du monstre et pas justement continuer à le disséquer de manière à... En fait, la peur, elle existe. Qu'on la montre, qu'on la montre pas, elle existe. C'est comme le loup sous le lit. À un moment donné, tu le regardes dans les yeux et t'essayes de voir qu'est-ce que t'en fais en faisant rebondir, en faisant un écho. Et sur la question des médias, pour les médias indépendants, par exemple, il y a pas mal de médias de quartier qui en parlaient déjà avant. Je pense au Bondy Blog, je pense à La Meute, qui est un collectif de photographes, etc., qui en discutent. Il y a eu des vidéos qui sont sorties, et c'est plus... Moi, la question, c'est, dans tous les cas, ces images, elles existent, et qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on arrive à les faire résonner avec le vécu, le ressenti des gens, et comment on arrive à poser des mots dessus? Et justement, des fois, je trouve que poser des mots dessus et poser des images dessus... C'est une manière aussi d'annihiler la peur, justement, et pas de l'augmenter, de manière à mieux réfléchir à comment on lutte contre ça, et comment on s'informe, et comment on se prépare.
Ouais, je trouve cette question de l'image, justement, elle est trop intéressante. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui existent parce que l'image existe. C'est l'image qui fait exister le fait, ou... Enfin, sinon, tu peux en parler, mais ça n'aura jamais la portée, et ça ne sera pas la vérité, parce que ça n'a pas existé. Et après, il y a ce... ces vidéos et ces images, en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Et je trouve que, en fait, de semaine en semaine, par exemple, quand il y a des manifs et tout, on est vachement sur de l'indignation. Il y a eu une nouvelle violence policière, un nouveau truc de ouf, une main arrachée, un croche-patte, un truc qui aurait jamais dû se passer. Et c'est une image qui va durer 3-4 jours. Et c'est l'image du moment, et bim, on est indigné, et ça indigne tout le monde, et ça repart en... Donc, du coup, les gens reviennent et sont pas contents, etc. Et un peu un truc cyclique comme ça, qui fait que le jour où d'un coup il n'y a plus de vidéos ou plus d'images hardcore à voir, il n'y a plus à s'indigner, quoi. Et du coup, je trouve ce qui est important pour rejoindre un peu ce que tu disais là, c'est de... On a ça, en fait, et qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Comment on sort de ce truc de ok, bon, il y a ça, c'est une image à voir, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on sort de là, et comment on porte un autre discours de... pas d'indignation, pas d'exception ou de machin, mais de qu'est-ce qu'on fait, en fait, de cette image et de toutes ces images qui existent, en fait, et voilà.
Oui, carrément. C'est plus le truc de pas être choqué par l'image en elle-même et par ce qu'elle représente et par ce qui est dedans et par l'action directement. Et du coup, l'image, c'est juste le reflet de ce qui se passe et bref, voilà.
Et après, je pense qu'il y a juste un petit aspect que, du coup, il me semble qu'on n'a pas évoqué sur ce truc de médiatisation, c'est... aussi l'effet que ça a sur les personnes, et du coup on en a parlé rapidement, mais du coup genre il y a eu pareil aussi une une personne qui est en prison actuellement et où sa photo elle a été diffée d'abord dans le Figaro et le Point et récupérée par des blogs de keufs et ensuite récupérée par des milieux, des médias et des pages Facebook soi-disant militants, genre Notre Révolté et des délires comme ça, et où en fait cette personne est en prison pour au moins 17 mois sur des trucs construits de rien du tout et tout, et en fait genre le résultat de cette médiatisation à outrance de sa figure, de son profil construit par les médias et par les keufs et tout, ça fait qu'en fait elle est juste dépossédée de ce que elle pourrait avoir à dire sur sa situation, la répression qu'elle se prend dans la gueule et les soutiens qu'elle pourrait vouloir avoir, et elle se retrouve juste en prison à recevoir 50 lettres par jour de tout un tas de personnes qui sont plutôt solidaires avec elle, mais où en fait elle a juste pas choisi d'avoir 50 personnes qui lui écrivent des lettres tous les jours, et du coup enfin pareil genre, et de la même manière genre la personne je pense qui La meuf du croche-patte là à Toulouse, je pense pareil, elle s'est retrouvée en fait genre dépossédée à être un petit peu genre mise les pieds devant le mur, de savoir si elle porte plainte, si elle porte pas de plainte, comment elle réagit, si elle parle aux médias, si elle parle pas aux médias, comment faire, nanana. Et je pense que moi personnellement, je trouve qu'on n'a pas besoin de...
Ouais, avec des médias qui utilisent son cas pour aller faire réagir Édouard Philippe, Emmanuel Macron, ça va hyper loin, quoi.
Ouais.
Mais du coup, on parlait médias mainstream, mais c'est vrai que là, sur le cas de la personne qui est en prison, là, c'est vraiment de l'internet, quoi. Enfin, c'est vraiment. Mais donc, ça a vraiment commencé avec des blogs de faf aussi et des keufs qui se font tourner, qui ont des espèces de. Qui suivent des. Il y a des espèces de comptes Twitter, je sais plus comment ils s'appellent, Actu Pénit, Actu 17, là. Et ils se font tourner des images, des photos, des descriptions de gens et tout, tu vois. Et tu rajoutes à ça, du coup, des personnes qui viennent en soutien, mais de la pire des manières, en fait, et qui n'ont rien demandé à personne, et qui dispatchent numéro d'écrou, etc. Et en fait, c'est hyper violent de chaque côté, et c'est l'image, quoi.
On arrive pas loin de la fin de cette émission, il reste 10 minutes, et on s'était dit qu'on faisait une émission rap, anti-rap. On a parlé quasiment que de répression, et très peu d'anti-répression. Je sais pas, du coup, on s'était posé la question finale, quelle réponse à la répression? Alors c'est très très large, mais en tout cas vous, dans vos collectifs et tout, comment vous essayez un peu de batailler contre tout ça, quoi?
D'abord, le premier des trucs, c'est soutenir, je pense, les personnes concernées, directement concernées, que ce soit du soutien matériel, financier, que ce soit du soutien moral, que ce soit du soutien de savoir aussi, partager les connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure de nos luttes, les informations qu'on a. Un truc tout simple comme, par exemple, tout le monde ne sait pas où écrire pour porter plainte ou pour se porter partie civile ou qu'est-ce. Et du coup, donner des noms d'avocats un peu mieux qu'on connaît ou des trucs comme ça, genre vraiment faire du transfert et de la transmission d'informations. Et puis aussi accueillir la parole et les voix des personnes qu'on n'entend pas et qui ont besoin de parler. Être reconnu.
Puis après, on en parlait un petit peu quand même. C'était ce truc de... En fait, comment on peut faire en sorte de décomposer un peu la peur, quoi. Ou en tout cas, d'essayer de la décortiquer et de mieux la comprendre. Et donc, de faire en sorte de... de soit vivre avec cette peur, soit carrément, genre, ne plus l'avoir, quoi. Et du coup, ouais, il y a ce truc de... rompre l'isolement, être solidaire en manif, être solidaire dans la rue, être solidaire avec ses voisins, ses voisines, les gens avec qui on bouge, accompagner les gens quand ils sont dans des procès, les aider à les préparer, se mettre à plusieurs cerveaux pour réfléchir à... pour décortiquer un dossier et du coup réfléchir à des stratégies pour se présenter devant le juge et essayer de gagner la relaxe. Partager des expériences...
Je dirais comprendre aussi, moi, comprendre la répression, comment elle fonctionne, nous, ce qu'on essaie de faire, j'ai l'impression, la DEFCO, c'est qu'est-ce qui t'arrive quand t'arrives en gave, et en fait, qu'est-ce qui va se passer, et c'est quoi les mots qu'ils vont utiliser, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, et en fait, juste tu comprends ce qui t'arrive, et on te dit, ça va se passer comme ça si tu fais ça, ou si tu passes plutôt dans ce mode-là, en fait, ça va se passer comme ça, et en fait, le fait de le dire, de le comprendre, de savoir ce que ça engage, tu vois, enfin, par exemple, le rien à déclarer, c'est facile de le dire comme ça, mais pour le tenir, faut juste être sûr que ça marche, que ça fonctionne, que ça veut dire quelque chose, que ça peut amener à du mieux et tout. Et c'est des choses de juste, s'auto-former, se partager ces infos-là et comprendre ce qui va t'arriver et comprendre et en fait juste pas être face à un truc énorme et un monstre et voilà, et du coup ça passait par ce que tout le monde est en train de dire, de rompre l'isolement quoi, de pas être seul et de pas laisser les gens seuls face à la répression et de rester toutes et tous ensemble tout le temps et de checker tout le temps, et que ce soit dans la rue, que ce soit au tribunal, que ce soit pour les personnes incarcérées, c'est en fait pas se lâcher et surtout pas se défendre au détriment des autres. Nous, c'est ce qu'on dit vraiment au maximum. C'est que des fois, dire c'est pas moi, c'est lui, ouais, c'est cool pour toi, et encore. Mais c'est pas cool pour l'autre non plus, quoi. Et c'est des trucs de. Ça se passe autant dans les tribunaux que dans la rue, quoi, à tous les niveaux. Du coup, voilà, un peu, j'ai l'impression.
Je vais retransmettre une info que j'ai eue, en fait, mais ça vient de la Belgique. Ça s'est passé en 2018, c'est une famille kurde qui partait de Belgique et qui avait pris une camionnette et qui était en train d'avancer vers la France, à la frontière française, pour peut-être rejoindre le Royaume-Uni. Et en fait, c'était une petite camionnette et ils étaient plusieurs à être en train de passer d'une frontière à l'autre avec toutes les difficultés qui sont le quotidien de centaines et de milliers de personnes. Voilà, et en fait, cette camionnette, elle a été poursuivie par une voiture de police. Et en fait, il y a un flic qui a tiré sur la camionnette. Et il y a la petite Maouda, qui avait 2 ans, qui a été donc assassinée, qui a été tuée, en fait, à cette occasion-là. Donc, cette histoire est en fait d'autant plus dramatique que le traitement médiatique et judiciaire qui a suivi a stigmatisé de ouf la famille, et qu'en fait aujourd'hui la famille, elle est encore dans des procédures judiciaires pour pouvoir garantir sa présence en fait sur la Belgique, qui au final est le territoire sur lequel est enterrée leur petite fille, et qu'en fait les procédures judiciaires, elles n'ont pas inculpé jusqu'à maintenant le flic, et qu'il y a une cagnotte, il y a un rappeur belge qui a fait un clip qui a été diffusé il n'y a pas longtemps. Ce rappeur, il s'appelle Code Rouge. Et avec le comité Justice et Vérité pour Maouda et la Nouvelle Voix Anticoloniale, il lance un appel aux dons. Donc ils ont besoin de lever 5 000 euros, bon, idéalement 10 000 euros, pour permettre à la famille de rétribuer le travail des avocats et donc du coup d'accompagner cette famille qui est dans le deuil, en fait, dans toutes ces épreuves judiciaires qu'ils ont. Donc voilà, si vous allez sur Litchi et que vous tapez Justice pour Maouda, vous pourrez aussi soutenir cette famille-là.
Ça, c'est une autre forme de réponse aussi, de collecter de l'argent pour les frais de justice et tout ça.
Tout à fait. Ouais. Bah, nous, on fait ça un peu avec la DEFCO. Du coup, on envoie 100 euros pour chacune des personnes qui est incarcérée et qui en a fait la demande et qui nous a contactés et tout. Et plus filer des coups de main pour payer les frais de justice, aider les gens à faire des demandes d'aide juridictionnelle, mettre en contact avec des avocats qui acceptent l'aide juridictionnelle.
Donne des infos aux familles aussi pour pouvoir envoyer des trucs aux personnes incarcérées ou aller les voir. Parce que c'est pas si simple que ça quand quelqu'un arrive en prison la première fois, on capte pas trop ce qui se passe. Mais il y a l'argent pour les personnes incarcérées, il y a aussi du lien. Il y a des lettres qui sont envoyées et du lien qui est fait un peu plus réel, quoi. Et que ce soit, toujours dans ce truc, en fait, de pas laisser les personnes isolées et leur donner l'impression que... pas leur donner l'impression, mais leur montrer qu'il y a du monde derrière, quoi.
Et du coup, sur les trucs de comment faire, comment on s'organise face à la répression, du coup, on peut faire le petit instant publicité.
Yes.
En disant que du coup, sur le blog de la Défense Collective de Toulouse, donc qui est Défense Collective Toulouse tout attaché .noblogs.org, vous trouverez à la fois une brochure, notamment sur un guide pratique à l'usage des personnes incarcérées à SAIS, donc où il y a un petit peu tout le déroulé de comment ça se passe, comment faire une demande de parloir, comment envoyer de l'argent, qu'est-ce que tu peux amener comme colis de linge, à quel moment, c'est quoi les horaires de parloir, etc. Comment envoyer du courrier, textes ou brochures qui ont été publiés par la Défense Collective, notamment textes en rapport avec la médiatisation, le flicage sur les réseaux sociaux, et aussi comment s'organiser de la garde à vue à la prison, quoi, quand on se prend la répression. Voilà.
Sur le comité Vérité Justice, il y a des choses à dire, je sais pas, des...
Bah, de toute façon, nous, un de nos principaux axes, c'est une des choses qu'on répète quand on nous demande comment on peut aider, etc. C'est clair que c'est le soutien financier, parce que c'est des procédures qui coûtent très très cher, très 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 cher, et comme on disait tout à l'heure, principalement c'est les personnes précaires et pauvres qui sont touchées, du coup, on peut soutenir à tout moment, de temps en temps on fait des événements, mais oui, enfin, faut pas hésiter, mais quelle que soit la ville, à Toulouse ou n'importe où, j'ai l'impression qu'il y a un peu des comités partout en France, et du coup, vraiment soutenir les caisses et... Les familles, c'est déjà cassé aussi l'isolement pécuniaire, ou je sais pas trop comment dire ça, mais ouais, renverser un peu la vapeur.
Il y a un site, un truc, un blog, un Facebook, je sais pas pourquoi.
Ouais, on a un Facebook, Comité Vérité et Justice 31, où on peut nous envoyer un message et nous joindre. Et de la même manière, là, on prépare une brochure à destination des personnes victimes de violences policières et de leurs familles pour avoir un peu toutes les informations juridiques, etc., pour savoir comment on s'organise, comment on lutte, comment on se contacte. Parce que se réseauter, en vrai, et se mettre en lien les uns les unes les autres, c'est partager les expériences et aussi savoir un peu comment on peut gagner le combat.
Eh ben, merci, on remettra tout ça sur le site... de Canal Sud avec le podcast.
Carrément.
On avait prévu des trucs là, mais on n'a plus le temps. On a
si,
tout
grillé. Si, on a complètement le temps.
Ah ouais, on s'en fout, on y va.
On s'en fout. est-ce que du coup, changement de ton, parce que c'était pas très rigolo ce dont on a parlé, mais le magazine Pagaille a réalisé une fiction. Mais en réalité, c'est une enquête exclusive, hein, puisque un policier a accepté de témoigner sur les nouvelles drogues qui sévissent dans la police. On va le lancer bientôt. Et bon, je précise quand même que c'est une fiction. C'est parti.
Juste attends, avant, on avait prévu de passer un petit extrait d'une émission et du coup j'ai l'impression que ça va sauter. Mais pour vous dire qu'il y a eu une émission de Chouftoloza sur les violences policières qui est disponible sur SoundCloud, je crois.
Ouais, Chouftoloza, c'est un média de quartier qui s'est lancé il y a quelques mois et du coup l'émission, elle a été faite dans le cadre d'une journée justement contre les violences policières et le racisme d'État où il y a eu plusieurs plateaux. Et un de ces plateaux du coup a été monté et diffusé et à l'intérieur on peut écouter Farid Benfodil qui est un pote de Pipo justement dont on parlait tout à l'heure, Farid El Yamni, le grand frère le petit frère je crois de Wissam El Yamni qui a été tué par la police à Clermont-Ferrand et Rachid le frère de Jawad qui a été retrouvé mort à Seyss l'an dernier et c'est chouftoloza.info et voilà il y a l'article.
Fiction.
Marie-Jeanne.
Enquête. Business.
Trafic.
Jean-Luc Moudingue. Casseur.
Pagaille.
Canal Sud. La fiction. Ici Marie-Jeanne de la Tourbière sur Canal Sud en envoyé spécial. Aujourd'hui, nous allons aborder un phénomène inquiétant qui est l'usage de nouvelles drogues dans les secteurs de la police et de la sécurité. Un agent a accepté de nous rencontrer, bien sûr sous couvert d'anonymat, et nous allons le rencontrer. Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Vous êtes Marie-Jeanne ?
Tout à fait. Merci d'avoir accepté que l'équipe de Pagaille du mercredi vous interview.
Eh ben, merci de m'accorder cette interview. Voilà, bienvenue dans mon bureau du commissariat de Bonnefoy. On est au commissariat de Bonnefoy, ici, à Toulouse. Donc moi c'est Didier Berthou, j'ai 36 ans et je suis président depuis 2015 de l'association amicale des personnels de sécurité dépendant aux molécules lacrymogènes.
Merci, alors première question, de quoi parle-t-on exactement quand on alerte sur les produits dits narco-lacrymogènes ?
Qu'est-ce qu'un produit narco-lacrymal ou narco-lacrymogène ? C'est un produit qui contient... Donc, évidemment, des molécules habituelles nécessaires au maintien de l'ordre, donc contenues dans ce qu'on appelle les gazeuses, donc les munitions des lanceurs Cougar, par exemple, auxquelles les fabricants ont ajouté petit à petit, depuis le milieu des années 2000, une certaine molécule dont on ne connaît pas encore précisément la provenance, puisque les fabricants sont assez... sont assez réticents à communiquer la recette. Donc plus précisément, oui, c'est donc jusque là en fait la molécule principale des produits lacrymogènes, c'était donc la molécule CIC6H4CH, donc le chlorobenzylidène de malonitril. Ça, c'était la molécule de base. Et depuis, donc, les fabricants ont décidé d'ajouter des molécules additives qui développent des dépendances, en fait, donc qui agissent comme le tabac ou l'héroïne.
Et quels sont les symptômes induits par ce type de consommation ? On parle bien donc de produits de type stupéfiant, c'est ça ?
Alors, on parle bien de produits stupéfiants, puisque du coup, au sein de l'amicale des personnels de sécurité dépendants aux molécules lacrymogènes, on essaie de faire prendre conscience aux gens, en tout cas à nos collègues policiers ou gendarmes, que c'est des produits qui développent des dépendances. C'est des produits assez dangereux qui ont pas mal d'effets d'effets secondaires, d'effets négatifs sur le comportement. Les symptômes, c'est les principaux, en tout cas, c'est les yeux rouges, l'air hagard, l'irritation de la peau, une forme de perte de sensibilité également, une forme d'irritabilité au contact des autres, et aussi, surtout, des crises de manque qui se traduisent par des sueurs, etc., un peu comme pour d'autres produits stupéfiants.
Et est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des trafics qui se sont développés autour de ces produits, de leurs usages ?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans nos commissariats, nos entreprises de sécurité, il y a un marché noir qui est en plein boom là ces 5 dernières années. Donc l'association que nous on a créée, ça date de 2015, mais ça a commencé un tout petit peu avant ça. Il y a un marché noir qui s'est développé parmi nos collègues en fait surtout. Il y a, bon voilà, faut le dire, il y a des brebis galeuses en fait qui profitent de la détresse de la fragilité de certains fonctionnaires pour étendre un peu leur business. Donc c'est des collègues qui arrondissent leur fin de mois en revendant du coup des produits lacrymo qui développent ces dépendances. Bon, nous on repense avec nostalgie un peu à aux années 70, 80, 90, où c'était plutôt les produits anisés qui étaient prisés par les collègues. Et bon, ça, on savait gérer. Mais depuis l'arrivée de ces produits narco-lacrymo, on est un peu... on est plus réactif, quoi. On est dépassé, on ne sait pas trop comment réagir. Et nous, on essaie de se mobiliser et de faire prendre conscience à nos chefs, à nos gradés, que c'est un problème qui va devenir de plus en plus récurrent et développer des tensions au sein de nos commissariats, notamment.
La question que tout le monde se pose, hein, c'est est-il possible d'aborder un tel tabou de ce sujet, hein, des stupéfiants, au sein des professions de sécurité ?
Alors, il y a un tabou autour de ces consommations. C'est vrai que nos chefs ont un peu... ils ferment un peu l'œil là-dessus pour l'instant, en pensant que c'est marginal, mais bon, ça arrive... moi, je vois autour de moi pas mal d'affaires, d'histoires, d'équipements qui disparaissent dans les commissariats. On entend parler pas mal de choses, des lacrymos qui disparaissent, des gazeuses, tout un tas d'équipements qui disparaissent. Après, c'est dur de savoir comment... il y a un tabou aussi autour de la consommation, c'est dur de savoir comment sont consommés les produits. Donc c'est vrai qu'on a des retours de personnes qui essaient de s'en sortir, qui nous racontent que les produits sont consommés de manière parfois habituelle. Donc les gens se procurent des produits lacrymo et par exemple remplacent le sucre dans le café avec ce type de produit. C'est dur de savoir comment ils sont consommés parce que c'est de plus en plus transformé en fait. Donc là, il y a quelqu'un qu'on suit au sein de l'amicale qui était fortement dépendant à ce qu'on appelle dans le jargon le lac champ. En fait, c'est un shampoing dans lequel les trafiquants vont vider les capsules de lacrymo et les lanceurs, enfin les lacrymo, donc des lanceurs de type cougar. Donc ils mélangent ça avec du savon en fait, et donc les collègues sont très adeptes de ce type de produit parce que c'est très difficile à trouver, à déceler. Donc en fait, ils se lavent avec ce produit, ça pénètre par la peau, et après c'est assez facile de cacher les plaques, les irritations sous l'uniforme.
Est-ce que vous avez une idée de l'ampleur du phénomène ? Est-ce que ça concerne beaucoup de monde chez la police et les professions de sécurité ?
Alors nous on parle d'un nombre constant, d'un nombre assez constant, mais qui est en évolution en permanence quand même. Selon les sources qui sont issues de notre propre recherche, c'est entre 34 et 36% environ des fonctionnaires de police. Ça va jusqu'à 48% des personnels de sécurité privés, donc les vigiles, les gardiens de parking. C'est un chiffre un peu plus considérable dans le privé, il faut le dire. Il y a aussi de plus en plus de personnels de sécurité de la SNCF qui sont en proie à ce type d'addiction, donc de produits lacrymo. On peut l'expliquer aussi parce qu'il y a un certain ennui quand on travaille dans la sécu à la SNCF. Il y a la redondance un peu des trajets en train où il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, on est avec les collègues, on s'ennuie un peu. On se tape une trace de lacrymo, ça devient un truc assez courant maintenant. En ce moment, on constate pas mal que le public s'est élargi et que le trafic s'est adapté à la demande. On a maintenant pas mal de contrôleurs des transports aussi qui se mettent à ce type de consommation. On a des surveillants pénitentiaires, on pensait les voir un peu plus tôt se mettre à ce type de consommation, mais en fait c'est que maintenant que ça arrive. Il y a beaucoup de surveillants pénitentiaires qui nous contactent pour dire que la situation est assez alarmante et inquiétante chez eux.
Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ?
Alors nous, ce qu'on essaye de mettre en place, donc déjà depuis la création de l'association, on a un numéro vert, donc le Drogue Info Police, qui est le 0800 23 13 13. Voilà, donc tous les fonctionnaires et personnels de sécurité peuvent appeler pour avoir du soutien. Je pense que sur les prochains temps, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est aussi dénoncer les fabricants. Donc les fabricants de ces produits lacrymo qui placent des additifs développant des dépendances. Donc pour l'instant, tout le monde ferme les yeux, sans mauvais jeu de mots. Mais il faut s'organiser contre ça. Donc moi, je pense aussi à l'affaire du Mediator, à l'affaire du glyphosate. Ben, peut-être comme dans ces affaires-là, il va falloir bientôt lancer une affaire lacrymo sur le côté néfaste en fait de ces produits. Et bon, là, on a attaqué en justice récemment les fabricants comme Nobel Sport ou encore Alcetex, qui sont deux fabricants de produits lacrymo en France et qui exportent aussi à l'étranger. Donc, on va suivre ça de près. Mais c'est pas impossible qu'il faille être plus offensif. Nous, on commence à essayer d'imaginer, à se mobiliser autour des lieux de production de ces lacrymos. Et voilà, donc la lutte continue.
Merci beaucoup, Didier, pour cette interview exclusive sur Canal Sud.
Merci à vous.
Allô, bonjour. Merci Didier, du coup, de nous avoir expliqué pourquoi on bouffait autant de lacrymo dans les manifs. C'est qu'ils sont en manque, les types, en fait. Merci à vous d'être venus dans ces studios.
Non, merci.
Merci de nous avoir invités. Ouais.
Et puis, on se disait que là, il fallait peut-être dire qu'il y a une manif GJ maintenant au Capitole.
Ouais.
Donc, fonfé.
Et pile en même temps, il y a toujours l'occupation des Galeries Lafayette qui sont aussi à côté du Capitole. Du coup, peut-être y aurait-il un moyen de rejoindre quelque chose.
Attention.
Et du coup, ouais, là, c'est 14h GJ et samedi, pareil, 14h, Jean Jaurès, les Gilets jaunes, toujours.
Et du coup, oh Jean-Luc Moudin. bisous.
On va tout casser chez toi.
On se retrouve, on sera pas là pendant les vacances parce qu'on est fatigué.
Ouais, on a beaucoup bossé pour cette émission.
Ouais, on n'en peut plus. Mais on se retrouve le 26 février, je crois. Des bisous.
Salut.
Ciao.
Black on red like I whip the Sambo. Clip so long it'll make you mumble. Watch you tangle, dirty wine. She grind on my dick like 100 times. Shorty love me long when I grip her sides. And slip inside like a slip and slide. My electric eel do electric slide. But
I walked in the booty. I love me, I love me, I love me. I get so glad like booty. I love me, I love me, I love me.
I just wanna feel in your booty. Grab the camcorder, we can make it a movie. Bring a friend with you if you like how I do it. Gold chain swinging and she like how I shoot it.
Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect. Keep a gold chain on my neck, fly as a jet. Boy, better treat me with respect.
Damn, I'm frosty. Blood diamond, I'm flossing. Navy camel, I'm drowning. But you don't see what it cost me. Turmoil like the Saudis. Hand me downs, never fear.
Honda swerving, that's a Merlin. That's a Merlin, that's a Merlin, that's a Merlin. Damn, time traveling, Honda swerving, book learning. That's a Merlin, that's a Merlin, that's a Merlin. Swan dive down a 405, land at the bottom of El Toro High. With the precision of a cut from a Zorro knife, the boy spit like you made out of 409. So that's clean, bitch, you can't play with my team, bitch. We rock pink, now more Wednesdays. Green looks good with your envy. Mixed with white, cause you salty, but this stainless. I'm like platinum and it's painless. To just skip on the beat like I'm Pee Wee Herman. Hands up for all my sermons, my wheels turning. Now I'm more efficient than ever. I feel like Ratatouille when I whip in the cheddar. You see, you better find your thickest of sweaters, cause this ice might fuck around and change your whole life. Cause when you're about to take flight,